Y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 FM, nous sommes le mercredi 6 juillet, 8h30, il a tout compris à l'Artcom, à la technique, Corto, salut.
Salut, salut, bah ouais, l'Artcom et moi, maintenant.
Ça n'a plus de secret.
Ça n'a plus aucun secret.
Tout ça pour vous dire qu'on a reçu hier le secrétaire général de l'Artcom, ancien CSA, monsieur Antoine Tabar. Finalement, c'est notre grand patron, ouais, ça s'est super bien passé, on est ravis des échanges qu'on a ensemble, hein. Quand même, il est 2h30. Il a pris le temps de tout nous expliquer, d'être à notre écoute et tout, donc finalement on est super contents. Allez, au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Valérie qui organise la 10e édition du festival Rock au Pompidou, ce sera le 16 juillet prochain, on en parle avec elle dans un instant. Et puis il y a plein de choses aujourd'hui, nous irons à la rencontre du Nui Shengli, qui est chinois, il est auteur de BD, notamment de Au Loin Une Montagne, qui a été pris du festival Enemy BD. Je l'ai rencontré ce week-end, et puis honneur à la mission locale, les jeunes de la mission locale ont fait un super mapping au festival Bulle de Burle, pour changer à Inimi, à Saint-Enimi, c'était samedi soir. J'ai rencontré deux jeunes qui en ont fait partie de ce mapping, et Franck Bateau qui est chargé de projet à la mission locale. Et enfin, nous finirons l'émission par la série dédiée aux médias radio en collège et en lycée qui a eu lieu à Sommières en mai dernier. Le son de Michael Scherp, ce sont des petites capsules qu'il a réalisées en cette occasion. On écoutera ça en dernière partie d'émission. Il y aura de la musique comme d'hab, notamment un groupe qui se produira au festival Rock au Pompidou, Unconfirmable Knowledge, et on y va pour l'édito très court aujourd'hui puisqu'il se passe plein de trucs.
On peut être en désaccord, mais enfin vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là,
ce n'est que l'édito des Bartas. Un conseil de vidéo excellente. Les années Macron se sont ouvertes en 2017 sur une annonce. Le clivage gauche-droite était derrière nous. Son premier quinquennat allait être celui qui verrait les progressistes ouverts et modernes triompher des populistes, passéistes et dangereux. Le président nous promettait même que nous n'aurions bientôt plus aucune raison de voter pour ces derniers. Et bien, 5 ans plus tard, le bilan est plus que mitigé. L'extrême droite est dédiabolisée comme jamais et la gauche, quant à elle, est à pas grand-chose de se faire exclure du prétendu arc républicain. Comment on en est arrivé là? Eh bien, Usul et Ostpolitik sur Mediapart, disponible sur YouTube, dressent un bilan plus qu'intéressant, et c'est mon conseil ce matin, puisque je n'arriverai jamais à faire mieux qu'eux. Le plus drôle, façon de parler, parce que c'est pas drôle finalement, c'est que Macron n'a pas arrêté de crier au loup depuis toutes ces années, au loup pendant toutes ces années, et qu'aujourd'hui le loup est là, mais on ne l'a pas cru et on ne le croit plus. Allez voir cette vidéo, je mets le lien dans un instant sur notre site. On parle de rock et ça va faire du bien dans un instant. Un peu de jazz d'abord, Chet Baker. Jazz au rock, il n'y a qu'un pas de retour en plateau. Nous sommes en direct et par téléphone, si ça marche, avec Valérie. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu m'entends bien?
Je t'entends très bien, Ben.
Et nous aussi, c'est parfait. Tu es l'une des organisatrices du festival Rocco Pompidou. Ce sera le 16 juillet prochain, c'est la 10e édition. Comment est née cette aventure de mettre du rock, même du métal, voire au Pompidou?
Alors l'idée m'est venue il y a 10 ans maintenant, où moi je suis chanteuse dans un groupe de rock, de reprise de rock, à Paris, et je me disais qu'est-ce que je pourrais faire cet été pour relancer un petit peu la fête votive de mon village dans les Cévennes, et je me suis dit bah, pourquoi pas faire des concerts live à cette occasion. Ouais. Et puis mon frère étant aussi un guitariste et qui avait à ce moment-là aussi un groupe à Nîmes, je l'ai appelé et je lui ai dit écoute, est-ce qu'on pourrait pas monter un petit festival dans notre village préféré, le Pompidou.
Alors ces deux dernières années n'ont pas dû être évidentes finalement, comment ça s'est passé pour vous?
Alors en fait, l'année dernière, on a quand même pu organiser un petit festival avec quelques groupes quand même qui ont pu venir. Et puis on a essayé de faire ça malgré des interdictions, mais en tout en respectant quand même tout ce qu'il fallait. Mais l'année d'avant, par contre, ça n'a pas pu avoir lieu. On était tous très déçus.
Mais là, ça revient et c'est une excellente nouvelle. Évidemment, du gros rock entre la vallée Borne et la vallée française. Si c'est la 10e édition, c'est qu'il y a une super ouverture d'esprit là-bas, dis donc. Comment ça se passe avec le voisinage?
Alors, écoutez, ça se passe quand même pas mal. En fait, ce qui s'est passé, du coup, c'est que les premières années, on a fait ça pendant la fête votive qui a lieu toujours le premier week-end d'août. Mmh. Et puis, finalement, ça a eu tellement de succès que le comité des fêtes a décidé de nous réserver une date pour ce festival Rocco Pompidou. Et donc, maintenant, ça fait presque 6 ans que ça a lieu aux alentours du 14 juillet. Et donc, voilà. Et bon, on peut dire que l'accueil est quand même sympathique.
Mine de rien, ça peut parler à tout le monde, le métal. Hein. Pardon, ça c'est mon avis, mais ça fait des années que le métal et tous les styles de métal qui s'y rapportent, hein, parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, la scène métal, je dirais, super bonne presse en France. Ça cartonne.
Oui, beaucoup. Et c'est vrai que j'ai même des appels maintenant un peu de groupes reconnus pour venir jouer au Pompidou. Mmh. Et cette année, on a en plus le grand honneur de recevoir Uncomfortable Knowledge, qui est un groupe émergent là, de métal, qui est un groupe nîmois, et qui commence à faire pas mal parler d'eux. Donc voilà, et je pense qu'effectivement, ça va réveiller la vallée. Il va y avoir du gros son.
Et on va se réveiller ce matin, puisqu'on les écoutera juste après ton interview. Alors justement, la prog, on va en parler, mais comment vous avez choisi les groupes cette année?
Alors c'est un peu moi qui suis la responsable. Je suis la programmatrice de ce festival et c'est surtout par, on va dire, par connaissance et puis par goût aussi de la musique et du rock, hard rock metal. Donc voilà, il y a des groupes qui m'envoient leurs démos et j'écoute. On en parle pas mal avec mon frère et puis aussi avec Elena Lécuyer qui est du Pompidou et qui fait partie aussi du comité des fêtes et de l'organisation. On écoute tout ça tous ensemble. Et puis voilà, on fait une petite sélection, mais cool, hein, à la cool quand même.
On y va, il y a quand même 7 groupes qui vont succéder sur la scène de la place au Pompidou et ça commencera. Alors je ne sais pas si c'est dans l'ordre, hein, le programme que tu nous as envoyé.
Non, ce n'est pas encore dans l'ordre. Voilà, ça dépendait un petit peu de la durée de leur set. En fait, chaque groupe a un set maximum de 45 minutes pour justement pouvoir se succéder de manière que tout soit quand même bien organisé, tout ça. On commence à faire les balances l'après-midi et puis à 19h on lance le show et du coup voilà, il y a certains groupes qui ont quand même entre 45 minutes et on va dire une demi-heure de set. Donc là il faut que ça enchaîne, et ça aussi c'est mon rôle. Dès que moi je suis sortie de scène, je continue, maintenant je me transforme en régisseuse et je fais bouger tout ce beau monde sur scène.
Sachant que c'est jamais évident de quitter une scène quand on y est, puis c'est un endroit magique où on s'y sent bien.
C'est ça, et c'est pour ça que justement le dernier groupe, ça par contre c'est, il a annoncé chaque année, ça s'appelle Les Éphémères, c'est un groupe de reprise pop-rock dont fait partie mon frère Nicolas Cabanet. Et donc après leur, ils ont une dizaine de morceaux à nous jouer. Et là, en fait, la scène est ouverte et ça se transforme en bœuf jusqu'à pas d'heure. Et c'est ce qui est super sympa dans ce festival. Et c'est quelque chose qui, finalement, a été fait de manière un peu naturelle il y a quelques années. On a laissé les instruments et puis les gens sont montés sur scène, les musiciens et non musiciens d'ailleurs.
Pourquoi pas.
Et donc voilà. Et c'est une ambiance qui dure jusqu'au bout de la nuit après.
Alors, tu as parlé d'Uncomfortable Knowledge et d'éphémère. Il y aura aussi à ce festival Burning Spashin Wish.
Oui, les BSO, groupe mythique de Nîmes, mmh. Qui ont d'ailleurs enregistré un EP à Paloma là, en début de l'année. Le projet est encore en route. C'est un groupe de compo, de, on va dire, hard rock metal, mmh. Dont fait partie Arnaud Vielze, et qui est le batteur de ce groupe, qui est un ami d'enfance et qui est un super batteur, et c'est un super groupe de compo. Je suis très contente de les avoir avec nous à ce festival.
Puisqu'on est à Nîmes, restons-y, il y aura Camille aussi qui vient de Nîmes, K-A-M-I, je précise.
Ouais, alors ça, je crois que c'est on va dire que c'est plus du rock punk, et voilà, et ça c'est Fabrice qui m'a contacté pour jouer à Rock au Pompidou, et donc je suis bien contente de les retrouver. C'est une jeune formation, je pense, qui vient de se former, un groupe un peu nouveau, mmh. et donc je suis curieuse de les voir sur scène, Camille.
Et on reste à Nîmes, le dernier groupe qui vient de Nîmes, sachant qu'après on ira à Paris, à Marseille, il y a Pulse aussi.
Ouais, Pulse aussi. Ça aussi, c'est une recréation de groupe après plusieurs années où chacun avait eu un peu son side project, je crois. Et Pulse est formé, là, c'est reformé cette année. Et ça aussi, c'est du bon rock qui va mettre la pêche. Alors eux, ils ont une pêche d'enfer. Là, ils m'ont envoyé des vidéos. Ils sont aussi, je crois qu'ils jouent ce soir, ils jouent le mercredi 13 dans un autre petit festival, et ouais, c'est un groupe qui tourne pas mal et je suis très contente. Voilà, c'est Thomas Casanov qui m'a contacté et je suis ravie de les avoir.
Direction la capitale, on part à Paris avec un groupe qui s'appelle Nog.
Ouais,
est-ce que je le dis bien, Nog ou NOG?
Pardon?
Est-ce que je le dis bien, Nog ou NOG?
Non, c'est Nog.
Nog.
Nog, en fait, ça vient d'un personnage de jeu vidéo. C'était le démon de la paresse dans un jeu vidéo. Il y a quelques années, et ça, c'est mon groupe. Donc c'est mon groupe avec mes musiciens, comme j'aime bien le dire, avec mon batteur, mon bassiste, mon guitariste et ma guitariste. Et donc je les fais descendre de la capitale, ils sont super contents parce que ça leur fait un super séjour en Cévennes chaque année. Et nous, on est un groupe de cover, et de cover rock, metal. Et voilà, ça tourne, on tourne bien à Paris, entre les bars et les petites salles de concert. Et on fait beaucoup de reprises entre Led Zeppelin et des années 70 jusqu'à du Iron Maiden. Et voilà, et moi je suis la chanteuse.
Comment ça t'est venu, toi, finalement, cet amour du hard rock, du metal et tout cet amour pour ces groupes?
Eh ben, un peu par hasard, parce que en fait c'est le guitariste de mon groupe qui s'appelle Stéphane qui m'a contacté il y a plus de 10 ans maintenant. Mm-hmm. C'était un copain de copain et voilà. Et puis moi à l'époque je venais de finir ma formation de comédie musicale, donc rien à voir.
Ah oui, rien à voir.
Rien à voir. et puis il leur manquait une chanteuse qui venait de partir de leur formation. Et puis il m'a proposé de venir faire un essai. Et moi, c'est un univers que je connaissais pas du tout. Donc je me suis retrouvée dans ce studio à chanter du Guns N' Roses et notamment Sweet Child O' Mine. Je me souviendrai longtemps de cette expérience. Qui est quand même vocalement aussi une performance, hein, parce que ben, le hard rock et le metal, c'est quand même aussi au chant voilà, c'est quand même une performance et il faut quand même avoir beaucoup de technique. Mmh. Et puis finalement, je me suis prise au jeu. Voilà, il faut dire en plus qu'à cette époque-là, j'étais enceinte de mon petit garçon, qui a 12 ans maintenant. Et donc, j'ai fait mon premier concert avec eux, enceinte de 5 mois. Et en fait, ça m'a jamais lâchée. Et voilà, pour la petite anecdote, Sweet Child O' Mine, maintenant, mon fils Martin le joue avec nous de temps en temps. Il a 12 ans maintenant, il s'est mis à la guitare il y a quelques temps. Et à la dernière fête de la musique, il est venu le jouer avec nous. Alors, c'est tout un symbole.
Ouais, tu m'étonnes. et on finit pour la prog avec un groupe qui nous vient de Marseille, Algeco.
Alors, Algeco, c'est un groupe de mon ancien bassiste qui nous a lâchés il y a trois ans maintenant. Il a eu la bonne idée de quitter Paris et de partir à Marseille. Et il s'appelle Fabien Barlier, c'est super bassiste, et qui partait à Marseille pour mon plus grand regret. Mais bon, en tout cas, il s'amuse bien maintenant à Marseille puisqu'il a trouvé ce groupe qui s'appelle Algeco avec une formation classique, hein, basse, batterie, guitare, et avec une super chanteuse aussi. Alors, ils montent au Pompidou là pour la deuxième année. Eux, carrément, maintenant, ils ont pris carrément leur quartier, puisqu'ils montent 4 jours, ils ont loué un gîte et tout, tellement ils ont adoré. Et puis là, eux, c'est un groupe de cover.
Eh bien, voilà pour la prog. Et n'oublions pas que, comme tous les festivals, vous avez besoin demain et de bénévoles, c'est ça?
Oui, c'est ça. On a besoin de bénévoles le jour même pour monter et pour monter le barnum, pour monter les bars et voilà. Et voilà, mais tout ça dans une ambiance super festive et voilà, tout le monde. Heureusement qu'il y a le comité des fêtes que je voulais remercier en direct là, très important, parce que sans eux, voilà, nous avec mon frère, on s'occupe de tout ce qui est musical, le matos et tout, qu'on nous loue. C'est un copain de Nîmes là qui nous loue ça et on a, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que c'est un super matos. Ça nous permet de jouer dans des conditions professionnelles avec Guillaume qui nous fait le son, un ingénieur du son, donc, qui est toujours là. Et donc c'est vraiment des conditions de jeu pour jouer qui sont hyper confortables et ça, c'est vraiment super pour les musiciens.
Donc si vous voulez être bénévole à ce festival, il te contacte via Facebook?
Oui, exactement. Via l'événement que j'ai publié sur Facebook. Et puis, je crois qu'il doit y avoir aussi du coup mes coordonnées peuvent me joindre en message privé sans problème, avec plaisir. Et puis, il y a aussi l'histoire, je voulais aussi parler de l'hébergement. Si jamais il y a des personnes qui veulent venir camper, le camping sera ouvert, mais il faudrait me joindre aussi en message privé.
Voilà. Et je mets le lien sur notre site dans un instant. Alors, pas de rock sans bière, évidemment.
Hein. Ah ouais, non, de la bonne bière artisanale qui nous vient de Saint-Laurent-de-Trèves.
Chez Bertrand.
Bertrand,
la Tardonnaise.
Oui, c'est ça. Donc, on est super contents. Il va nous donner de la bonne bière rousse. Et voilà, il faut aller la goûter là-bas. Même si vous venez pas à Rock au Pompidou, vous pouvez passer à Saint-Laurent-de-Trèves la goûter parce qu'elle est super bonne, cette bière. Et le lieu est magique aussi.
Ouais, c'est sûr, auditeurs, auditrices, nous recevrons Bertrand en matinale la semaine prochaine. Pourquoi? Justement pour qu'il nous parle de sa bière. Et il vient d'ouvrir un petit bar qui est ouvert tout l'été. On en parle avec lui la semaine prochaine. En tout cas, ça se passe le 16 juillet à partir de 19h au Pompidou. Merci beaucoup Valérie.
Mais merci Ben, c'était super de parler avec toi et de parler de Rock au Pompidou.
Ça va faire du bien, et là d'ailleurs on va se réveiller. Rock au Pompidou, toute la prog, c'est sur l'événement Facebook, je mets le lien dans un instant sur notre site. Un groupe qui réveille et qui sera au Festoche, Unconfrontable Knowledge, le morceau s'appelle Color, on se réveille. À bientôt Valérie.
À bientôt Ben.
Ciao.
Bonne journée.
Yeah.
la joie de travailler sur Barthas et de foutre du gros métal le matin, c'est quand même pas mal la vie. Unconfrontable Knowledge, le morceau c'est Color et ils seront au Festival Rock en Pompidou le 16 juillet prochain. Le week-end dernier, c'était le Festival Enemy BD. J'ai rencontré Nui Shongri, qui est auteur chinois de bande dessinée pour Au loin une montagne. Alors désolé, il y avait pas mal de bruit dans la salle du festival quand j'ai réalisé l'interview. Ceci dit, on l'entend très bien. Et à la traduction, ce sera sa femme. Ce sera suivi de l'interview des jeunes de la mission locale qui ont réalisé le mapping très réussi qui a eu lieu le samedi soir. Et Franck Bateau qui est chargé de projet pour la mission locale. C'est parti. On est à Saint-Élimi avec Nui Shongri. Bonjour.
Merci.
Et Nathalie, tu assureras la traduction.
Oui.
Bonjour et merci. On se dit-tu ?
Oui, absolument.
Merci beaucoup de prendre ce temps pour discuter avec nous. Au loin, une montagne, c'est un chef-d'œuvre, qui veut dire 300 pages, c'est incroyable. C'est 40 ans de travail, c'est ça ?
Non, ça n'est que 3 ans et demi de travail, mais c'est un désir qui a... ça fait 60 ans qu'il veut écrire ce livre.
Comment l'aventure du dessin a commencé pour vous ?
从小就喜欢画画，但是呢，一直有一个愿望，想考美术学院，想中国的美术学院去学习，但是因为政治原因，中国根本就不允许。 那时候吧，高中毕业以后就不让我，就美术的学院完全就不招生了。
Bah, il a commencé très très jeune à dessiner. Il avait toujours eu envie d'être dessinateur. Et au moment où il a voulu entrer aux Beaux-Arts, la révolution culturelle avait éclaté. Et pendant plusieurs années, il n'était pas possible pour personne de faire des études d'art. Donc il a été de ce fait, en plus certaines personnes dans les catégories sociales étaient peut-être un peu plus favorisées que d'autres au début, étaient défavorisées ensuite pour aller à l'université.
Comment ça s'est passé une fois que la révolution culturelle en Chine a démarré en fait ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quel a été votre parcours finalement ?
文化大革命还没开始的时候，我就已经去到一个建筑公司做了一个建工地的，专门开这个建筑的这个机械的一个工人。
Il dit qu'avant avant que la révolution culturelle n'arrive, il avait déjà trouvé un travail d'ouvrier, puisque son père étant malade et même décédé, il a été obligé de chercher très rapidement un travail pour soutenir la famille. Donc il est devenu ouvrier, et donc il a eu cette chance, au moment de la révolution culturelle, d'être déjà dans la bonne catégorie sociale.
3 ans et demi, ce projet, au loin une montagne.
Oui.
Comment ça a commencé ? Comment est venu le déclic ? Comment l'aventure de ce livre est née et est devenue quelque chose de concret ?
Parce que 文化大革命的时候呢，对于一个普通的工人，他的这种政治上的冲击不是很大。哎，我呢在工地画画，还能够画画，啊，就是这样的，就是坚持着，一边工作一边呢自己继续学习，就是练习画画。
你刚开始他的意思是刚开始你这本书的现代的。
首先要画一本书，就在头脑里头，我已经想了很多年很多年，因为文化大革命对我可以说我生命中最好的年龄是从20多岁到30多岁，正好是文化大革命，所以我一定要把这个本书，就把自己的经历，我一定不能忘记，我要把它画下来。这就是有这个想法的时候。
Il a eu beaucoup de mal au départ parce qu'il voulait absolument faire ce film, ce livre depuis très longtemps, mais il s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que j'ai le droit de l'écrire ? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais l'écrire ? Voilà, est-ce que je peux le faire ? Et puis finalement, il a dit, bah, j'y vais quoi. Voilà.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur la Chine, sur votre pays, sur comment il avance c'est compliqué aujourd'hui pour les créateurs, les auteurs. Comment ça se passe et quel regard vous avez là-dessus? Est-ce que vous êtes désabusé, triste? Est-ce qu'au contraire, vous avez envie encore que ce pays avance? Est-ce qu'il est dans le bon sens?
中国现在的这个就是这种文化文艺创作的环境是越来越不好。
Que les conditions actuelles en Chine pour les artistes et les auteurs sont de plus en plus difficiles.
Est-ce que vous avez d'autres projets qui vous tiennent à cœur et est-ce qu'ils vont se concrétiser? Est-ce que finalement ce n'était qu'une marche vers l'avenir pour vous?
Nihayo, il y a bien de Anpai de Chou, Sendai. Nihayo. Alors oui, il a un projet et ce projet c'est l'histoire d'un journaliste français et de sa femme en Indochine pendant la guerre d'Indochine. Lui était correspondant de guerre à l'AFP et elle était infirmière militaire anesthésiste à l'hôpital Graal de Saigon. Et ils se sont trouvés dans la tourmente de l'Indochine et c'est ce qui leur est arrivé. Et voilà. En réalité, c'est la vie de mes parents, puisque je suis née au Vietnam, et quand je lui ai raconté mon histoire, il a toujours dit « je veux absolument dessiner ton histoire », d'autant plus qu'il a des amis qui sont militaires, et que les militaires ont pu lui raconter, côté Chine, comment ça s'est passé, puisque la Chine était impliquée aussi dans le conflit.
Comment on dit merci beaucoup ?
Merci beaucoup.
Moi, c'est Détoile Clarence. Oui, j'habite à Marbejol.
Ouais.
Je suis venue du Cameroun. J'ai juste fait 9 mois. Et grâce à la mission locale, ça m'a été tellement surprise de voir ce qu'on a fait à la mission locale jusqu'à s'afficher. Ça m'a tellement plu et c'est tellement fier.
Bonjour, je m'appelle Mohamed Rabouin. Je viens de Mayotte, mais là, je suis en France actuellement. J'ai 19 ans et j'ai découvert plein de choses avec la mission locale, comme le mapping, déjà ça m'a plu. Et c'est un truc que je me suis dit dans ma tête, j'allais jamais découvrir. Et au bout d'un moment, ça m'avait plu, on en parlait. Et le voir affiché devant tout le monde, l'applaudir, ça m'a grave touchée.
Alors, pour le truc, on est à la radio.
Oui.
Imaginez que certains ne savent pas ce qu'est un mapping.
Oui.
C'est quoi un mapping ?
Du coup, la mapping, c'est l'ensemble d'une cinéma.
Ouais.
Par exemple, oui. Peut-être il y a les dessinateurs, ceux qui ont organisé comment ils vont faire le dessin. Et ça m'étonne comment ils sont venus. Le maître, et ça m'a tellement beaucoup plu, c'est ça.
On sent que tu as été touchée par...
Oui.
Parce que toi, tu y as participé.
Oui.
Tu as participé comment?
Parce que du coup, comme on avait fait à la mission locale, et nous, on ne connaissait pas que ça devait afficher là. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Ça m'a tellement touchée, oui, c'est ça. Et du coup, malheureusement, notre camarade n'est pas venu. Oui.
Qu'est-ce que toi, tu as ressenti?
Ça m'a vraiment plu déjà parce que après j'ai rencontré des personnes qui font aussi des bandes dessinées et je savais pas c'était quoi un mapping déjà. Après je l'ai appris, j'ai fait et on a vu plein de dessins que dans notre tête on n'avait jamais pensé qu'on allait les voir. Après on a aussi mis des petits instrus, des musiques pour aller avec le dessin et tout. Du coup c'était grave touchant en fait.
Est-ce que ça donne envie de dessiner ?
Oui, même si on ne sait pas dessiner, mais ça donne envie, ça nous motive un peu. Vu qu'on a déjà fait le mapping, on se dit bah, pourquoi pas on crée pas notre propre dessin et l'afficher aussi, un truc comme ça.
Ça représente quoi pour vous la bande dessinée ? Est-ce que vous disiez avant que finalement un dessin pouvait parler autant que le mapping que vous avez vu ? Est-ce que pour vous ça représentait quelque chose ou pas du tout ?
Parce que d'abord du coup parce que pour faire le dessin, il faut te concentrer. Il faut d'abord une petite concentration sur le dessin et comment tu vas faire, le dessin que tu vas réaliser, est-ce que ça va donner ou pas tout.
Ça va plaire aux gens. Est-ce que le dessin ça sera bien dessiné. Il faut repasser et donner des idées au dessin et une image et un visage, un truc comme ça pour que ça plaît aux gens mais pas que à toi.
Toi t'es du Cameroun c'est ça?
Oui.
T'es en France.
Oui.
Comment ça se passe pour toi?
Bon, ben, du coup au début quand je suis arrivée c'était pas facile pour moi mais du coup comme souvenir je me suis habituée avec tout le monde, j'ai déjà fait la connaissance de plein de gens, maintenant cela ça va. J'ai aucun souci. Oui. Et c'est ma première fois de faire le mapping. Oui. Oui, c'est ça. Parce que du coup, au Cameroun, nous, on ne fait pas ça. Ce sont ceux qui font le studio, ce sont eux qui font ça.
C'est quelque chose d'inaccessible.
Oui, c'est ça, oui.
Et que là, ça te paraît accessible, tu te dis, ça serait possible de...
D'aller même pour reproduire ou montrer. Oui, c'est ça.
La France, la Lozère, c'est bien ou tu préférerais aller...
Non, la Lozère, c'est bien. C'est bien pour moi, oui, c'est vrai. C'est calme, tout est... C'est pas... Parce que du coup, il y a la différence entre le Cameroun et ici. Là, il y a plein de différences.
Toi, tu es de Mayotte ?
Oui.
Est-ce que tu es arrivée quand en France, du coup ?
Alors, je suis là, ça fait 5 mois. Ça fait pas longtemps que je suis à Mende. Du coup, je suis dans Lozère, mais ça me plaît pas parce que si t'as pas de voiture, t'as pas un truc à te déplacer, c'est un peu compliqué et on trouve pas de travail. Il faut que tu aies un permis, un truc comme ça. Du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, je préfère déménager. Mais au début, c'était bien parce que j'ai déjà tourné partout, j'ai un peu visité Lozère et tout. Du coup, ça m'avait plu. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, je ne vais pas rester comme ça sans rien faire. Du coup, je dois chercher un truc. Et je me suis mis à chercher, mais malheureusement, je ne trouve pas parce qu'à chaque fois, on nous dit, faut un permis. À chaque fois, on nous disait la même chose. Du coup, je me suis dit, bon, je dois me faire un permis ou je dois déménager autre part pour trouver un travail.
Est-ce que la mission locale t'aide ? Et je te reposerai la question après. Qu'est-ce que t'apporte la mission locale ?
Déjà, la mission locale nous porte beaucoup de choses, genre des trucs qu'on ne savait pas, comme plus sur les informatiques, faire des sorties, visiter des trucs, nous aide à faire des stages, nous aide à trouver des emplois, comment faire des CV et tout. Du coup, avec la mission locale, on a beaucoup appris. Beaucoup. Et je suis fière.
Et la même question, est-ce que la mission locale t'aide ? Est-ce que c'est vraiment un point de ressource que tu as ?
Oui, si, oui. La mission locale m'aide beaucoup et ça m'aide tellement avec mes petits besoins et aussi les petits sous que me donne chaque fin du mois. Mais c'est bon. Oui.
Si je vous demande votre rêve le plus fort, ton rêve le plus fort, tu vas faire...
Ce que moi j'aimais faire dans la vie, c'est pour devenir aide-soignante. Ou soit l'infirmière. Oui. Parce que du coup, dans mon pays, n'y a pas de soignants, tout et tout. Il y a des problèmes pour l'accouchement, tout et tout. Là. C'est ça qui m'a tellement touchée pour le réaliser. Oui. Pour aider au moins la population, aussi certains membres de ma famille, c'est ça.
Je te souhaite.
Moi aussi, j'ai une. Alors moi, depuis tout petit, je rêvais d'être gendarme. Du coup, moi, à chaque fois, je fais des démarches, je me demande mais comment ils ont fait des concours, des trucs comme ça. Alors qu'à Mayotte, j'avais essayé de faire un concours pour faire accès avec les gendarmes, mais c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer encore autre part pour voir si c'est pas compliqué et tout. Du coup, c'est mon rêve le plus fort que j'ai depuis tout petit. Du coup, je me suis dit, faut que je l'aie.
L'armée, quoi.
Ouais.
Ouais. Eh ben, je te le souhaite, vraiment.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir
venu. Merci à vous également.
Oui, alors moi je suis Franck Batou, chargé de projet à la mission locale, Lozère.
Ça a été avec les jeunes, hein, interview ?
Génial.
Bon, super.
En fait, c'est ça qui est très étonnant. Et, notre jeunesse est incroyable, je pense vraiment. Là, on vient de voir le mapping, elles ont été super touchées par ce qu'elles ont vu, par ce, par ce qui s'est passé, en se disant, tiens, c'est fou.
Oui, ce que ça donne en réel.
On se rendait pas compte, et puis que des gens le voient, c'est l'essence même de ton travail, toi. En fait, au final, juste leur donner ce tout petit truc, cette petite marche, pour que finalement elles puissent monter des échelles. Je sais pas, ma question est peut-être conne.
Non, pas du tout. Bah, en fait, la vocation des missions locales, c'est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Mais cette insertion, en fait, elle peut prendre des formes assez multiples. Et moi, je suis très attaché, en fait, à la question de l'accès à la culture des jeunes, puisque on a une population qui n'a pas toujours accès, soit pour des raisons d'éloignement géographique, soit de méconnaissance, soit pour des raisons économiques. Et ça fait partie de nos missions aussi, hein, cette ouverture, sensibilisation à la culture. Moi, j'essaie de le faire avec les jeunes par le biais du numérique, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez facilitant. Eux, ils utilisent le numérique au quotidien, en particulier avec leur téléphone portable, ce qui est bien, mais souvent c'est un petit peu réducteur. Et il y a beaucoup d'usages en fait qu'ils ne connaissent pas. Donc on essaie de travailler ça. Alors, la réalisation de ce mapping, c'en est un, parce que ça leur permet à la fois d'utiliser des outils, donc de un peu de les appréhender le fonctionnement, et puis aussi d'être créatif, hein. Voilà, moi, c'est un peu ce que je cherche avec les jeunes là, qui participent à ces actions, c'est de les amener à créer des choses, de voir effectivement que c'est possible, et puis d'en tirer des bénéfices, comme on a pu voir ce soir avec un public qui est là, qui applaudit, qui a l'air satisfait de ce qu'il a vu. Donc bon, pour les jeunes, c'est valorisant. Et bon, l'idée, c'est pas d'en faire des vidéastes, hein, ou voilà, pas forcément qu'ils aillent vers ces métiers-là, mais c'est de leur montrer que finalement, avec un peu de persévérance, on peut maîtriser ces outils et en faire quelque chose en faire quelque chose de bien, tout simplement. Voilà.
Et juste, je me pose la question aussi, là, la BD, c'est un art figé.
Ouais,
aujourd'hui, on est dans la politique de l'image, entre guillemets, de l'animé. On connaît les plateformes, les films et tout.
Ouais, c'est ça.
Et de leur montrer que finalement, la bande dessinée n'est pas tant figée que ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, là, c'était un peu la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire que, comme je t'expliquais tout à l'heure, Enimi BD nous a mis à disposition une banque de données, donc sous forme de planches, etc. Donc l'idée, c'était d'en faire quelque chose. Donc moi, ce que je demandais aux jeunes, c'était d'essayer de réfléchir, de choisir un personnage, d'essayer de réfléchir à une mise en scène. Et on a beaucoup utilisé en fait des vidéos libres de droit pour faire des fonds. Donc là, ce ne sont pas les personnages qui bougeaient, mais on essayait en fait de mettre le personnage en situation dans un fond animé, tout simplement. En utilisant aussi des sons, parce que le son, c'est une partie assez primordiale dans la vidéo. Et l'idée étant de créer des ambiances en lien avec le personnage, avec ce que les jeunes avaient imaginé. La mission locale, le partenariat avec Inimi BD, c'est à la fois la réalisation de cette animation vidéo, mais ça a été aussi la participation de jeunes à la préparation du festival. Et notamment Clarence et Rabouin sont venus jeudi pour préparer les couchages, faire du fléchage, poser des affiches, etc. Donc l'idée, c'est un peu enfin ces jeunes qui n'avaient jamais fait ça, et l'idée c'est de leur montrer un peu comment s'organise un festival, de voir que c'est une organisation qui est réfléchie, qui est ordonnée, etc. Et donc bon, c'est bien aussi de leur montrer que
il y a plein de
c'est un vrai travail en fait, voilà. C'est un vrai boulot d'organiser un festival, même si, comme ça, vu de l'extérieur, ça peut paraître quelque chose d'un peu ludique, mais voilà, que ça se construit.
Et tous les partenariats que vous menez avec la mission locale, que ce soit avec Inimi BD, parce qu'ils y tiennent, nous, Barthas, mais il y en a d'autres,
ouais.
Tous ces partenariats-là sont...
Oh, c'est indispensable. D'avenir. Pour moi, c'est complètement indispensable. Si on ne peut pas travailler seul... On fait beaucoup de choses à la mission locale, on a beaucoup de champs d'intervention qui sont différents, mais on est obligé de s'appuyer sur des partenaires. Et puis bon, pour moi c'est tout, c'est extrêmement bénéfique, puisque ça nous permet justement de proposer à des jeunes de participer à des actions auxquelles ils ne pourraient pas participer si c'était uniquement la mission locale qui portait ça. Donc avec Inimi BD, c'est un partenariat super intéressant, oui.
Franck, je vais terminer sur une seule question. Ça fait 6 ans, tu me l'as dit tout à l'heure, hors antenne, entre guillemets,
que je travaille à la mission locale,
métier à la mission. Est-ce que tu es toujours positif? Comment ça se passe pour toi et où est-ce qu'on va en fait, finalement? Et est-ce que tu as envie de rempiler pour 6 ans?
Pendant 6 ans, je serai à la retraite. on va pas se leurrer. Hein. C'est pas toujours facile. On a une vraie problématique, nous, d'engagement avec les jeunes. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont un peu dans l'immédiateté, un public un peu volatile, ce qui fait que parfois sur des actions comme la création de ce mapping qui demande du temps, de la persévérance. Des fois il faut un peu s'accrocher, c'est trouver les bons arguments. Bon, malgré tout on y arrive. Hein.
Merci beaucoup Franck.
Merci à toi.
Et voilà pour le début du partenariat avec la mission locale. Si vous êtes jeune, allez à la mission locale, des personnes superbes qui vous accueillent, qui vous conseillent, qui vous aiguillent, bref, des gens absolument géniaux. Le 19 mai dernier, l'ARA, l'Assemblée Régionale des Radios Associatives, c'est notre fédération, a été présente à Sommières pour la journée dédiée aux médias radio en collège et en lycée. Et à cette occasion, Michael Sherp a réalisé des petites interviews de jeunes. Il en a tiré une série de petits sujets sur le thème « Les jeunes et la radio ». Voici le deuxième épisode, on écoute ça.
Le 19 mai dernier, le Clémy de l'Académie de Montpellier organisait à Sommières la première édition de la journée de l'expression collégienne et lycéenne par la radio scolaire. À l'occasion de cette manifestation, organisée en partenariat avec Radio Sommières, des collégiens et des lycéens sont venus des quatre coins de l'Académie pour participer à 2 tables rondes et à des ateliers de pratique radiophonique. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns des participants afin d'en savoir un peu plus sur la manière dont les jeunes perçoivent la radio.
Moi, je m'appelle Eulalie et j'ai 15 ans.
Emma, 14 ans.
Alors, qu'est-ce que vous écoutez à la radio et à quel moment dans la journée vous écoutez le plus la radio?
Alors moi, il y a le soir de temps en temps quand je suis en famille pour s'endormir, tout simplement. Et forcément dans la voiture le matin, mais ça va être plus de la musique. Et le soir, quand je rentre du bus, et on va écouter la radio dans la voiture.
Et quelle radio?
Souvent des radios comme France Culture, France Inter, plein de radios avec plein de nouvelles, d'informations, tout ce qui peut être intéressant. Et j'écoute aussi toute seule quelques radios féministes, comme la radio Escapade qui a une chronique spécialisée consacré au féminisme. Il me semble que c'est le week-end, je crois que c'est le dimanche.
Radio Escapade, c'est une radio associative locale. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce type de radio ?
Alors moi déjà, je suis fan simplement du fait de pouvoir s'exprimer, parce qu'en étant à la radio au collège et donc en travaillant main dans la main avec Radio Escapade, le fait de pouvoir les voir dire pas ce qu'ils veulent évidemment, mais avoir la liberté d'expression, j'avoue que je les envie. Et juste la coopération et toute cette expression, en fait, c'est vibrant, c'est inspirant, c'est génial.
Alors moi j'écoute principalement la radio lorsque je suis dans la voiture, donc ça va être un petit peu n'importe quand, aussi bien le matin qu'à midi ou le soir. J'écoute plus pendant les vacances du coup, je suppose. Et sinon je n'écoute pas vraiment pour le plaisir en dehors, j'écoute un peu des podcasts mais pas vraiment la radio en direct.
La radio, ça t'évoque quoi ? C'est quoi pour toi ? Qu'est-ce que ça représente ?
Ah, c'est compliqué. Pour moi, c'est un espace pour s'exprimer dans divers cadres. Après, ça dépend de quelle radio on parle. Voilà. Mais c'est un petit peu comme une télé, mais où il n'y aurait pas l'image et où il y aurait juste le son. Donc forcément, sur certains aspects, ça va faire passer des choses plus fortes, puisqu'on s'appuie juste sur l'ouïe de l'auditeur.
Et les radios associatives locales, est-ce que tu en connais, est-ce que tu en écoutes ?
Je connais Radio Escapade étant donné qu'on travaille avec dans notre établissement. Mais à part ça, je n'en écoute pas beaucoup et je n'en connais pas beaucoup.
Ce sujet vous a été proposé par l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie.
Michael Scherp qui a réalisé ses interviews, la suite la semaine prochaine. C'est la fin de cette patiale déjà. Lundi, on repart au Pompidou. Il s'en passe des choses là-bas décidément. Pour le festival des rencontres littéraires qui auront lieu les week-ends du 23-24 juillet prochain. Et nous irons aussi à Vialas pour le festival de blues qui lui aura lieu le 16 juillet prochain. Merci Corto.
Bah nous soussaille, plaisir.
Et toi, tu pars ce week-end au festival 48e de rue. Abuse-toi bien là-bas.
Ouais, je serai là pour deux plateaux du coup, un le matin, début d'après-midi.
Et ça va être super. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien, on se quitte avec Charlie Parker, Yardbird. Passez une excellente journée sur Radio Bartas, prenez soin de vous, ciao.